La première question, c'est, vous êtes arrivé dans le coin depuis longtemps, et qu'est-ce que vous en pensez, etc. Alors, ça risque d'être un peu particulier si le coin n'est que le cimetière. Où habitais-tu?
Alors moi, je dis toujours que je suis une Parisienne. On regarde, on me dit Parisienne, je dis ah, Parisienne, Parisienne, de parents parisiens, de grands-parents parisiens,
Ah oui.
et même pour certains, d'arrière-grands-parents parisiens. Donc oui, moi, et puis alors, autre point important, jusqu'à l'année dernière, j'ai 42 ans, hein, jusqu'à l'année dernière, je n'avais jamais vécu ailleurs qu'à Paris. J'ai beaucoup voyagé, j'adore ça, c'est très important pour moi, je fais beaucoup voyager mes enfants au maximum et j'aurais adoré vivre ailleurs qu'à Paris. J'avais à un moment tenté vaguement un Erasmus, etc. Mais au final, je ne suis jamais partie. Alors je triche un petit peu parce que je suis née à Neuilly, donc sur mon acte de naissance c'est Neuilly. Mes parents habitaient à l'époque Porte de Clignancourt, donc à 3 jours de vie j'ai réintégré Paris. Et j'y suis restée jusqu'à 25 ans à peu près quand j'ai emménagé avec ce qui allait devenir mon mari, où on s'est installé à Montrouge. Et donc on était...
Et c'était pareil quand même
Et c'était...
dans ta tête.
C'était... Alors oui et non. Oui et non, parce qu'on passait le périph. Et des gens que je recevais me disaient, mais t'es plus à Paris. Je disais, quand même, on est à 500 mètres du périph. Bon, faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai que techniquement, c'était pas Paris. Que les gens qui vivaient à Montrouge, pour beaucoup, n'étaient pas
Passaient par
parisiens.
le Paris, le périph. Ils restaient dans leur coin de Montrouge ou quand même, là, c'est tellement proche.
Alors, nous, en plus, on marche avec mon mari, on marche en ville. Moi, je ne suis pas une randonneuse, mais j'adore me promener en ville, beaucoup. Donc, on faisait des dimanches entiers, on allait marcher dans Paris, on était encore très connectés à Paris. J'ai l'impression que les gens de Montrouge, probablement aussi, ne serait-ce que par le travail, mais le dimanche matin, tout le monde va faire ses courses au marché de Montrouge. Et on va au supermarché qui est en bas de chez nous à Montrouge. On s'est marié du reste à la mairie de Montrouge. Et il était question à ce moment-là des enfants qu'on aurait. Le maire nous a dit prévenez-nous parce qu'on doit prévoir les places en crèche.
Tout
Donc
était.
il y a quand même une centralisation sur Montrouge, même si de facto, alors moi je travaillais à ce moment-là à Boulogne, mon mari travaillait à Saint-Ouen. Et on passait notre vie à Paris parce que nos amis étaient à Paris, nos activités étaient à Paris, etc. Mais il y a quand même cette identité de Montrouge. Et puis notre fils est né et on a dû prendre un appartement, on a déménagé à La Défense. Et La Défense, alors on était côté Courbevoie, les gens imaginent La Défense comme un truc homogène, ce que ça n'est pas du tout. Plutôt, par exemple, est plutôt une ville chic. Courbevoie est une ville un peu plus prolétarienne. Nanterre est une ville qui peut être très prolétarienne. Et
Là, tu sais, ma génération a connu le. Il y avait la fac qui sortait de la boue, et puis il y avait le bidonville. Hein? Donc le Nanterre chic, ça dépend de l'âge.
Un de mes oncles, d'ailleurs, est venu chez moi et m'a dit, ah ben, je suis heureux de voir quelqu'un heureux ici, parce que moi, j'y ai vécu avant tout ça, et c'était pas drôle, quoi, grosso modo. Et alors, Nanterre, on réalisait pas forcément trop en s'installant là-bas, parce qu'en plus, on s'installait, bon, c'était une situation un petit peu compliquée, et on s'est installé là-bas par le 1% patronal. Donc, on n'avait pas trop le choix, on s'est installé dans un appartement génial, qui nous semblait extraordinaire, qui donnait sur une voie piétonne verte, avec la crèche en bas de la voie, la maternelle en haut de la voie, dans un quartier très très chouette. Mais ce qu'on n'avait pas forcément réalisé trop tout de suite, c'est qu'en fait, c'était un endroit très marqué. On était en fait, alors place Charras, qui est une place un peu importante de Courbevoie, qui a des bâtiments des années 70, des bâtiments d'habitation des années 70, qui avaient le quartier, enfin le pâté de maison où on était, un nouveau quartier des réhabilités des années 2000. et qui est en fait à la limite entre la zone pavillonnaire autour de la gare de Courbevoie et les zones de la Défense avec les buildings, dans le sens où ce qui était à l'époque la tour IBM était quasiment à deux rues de chez nous. Donc on était sur cette frontière-là, un pied dans la Défense et un pied dans le vieux Courbevoie avec ses petits pavillons et ses jardins. Et on a adoré cet endroit. Mais vraiment, et quand on disait on habite la Défense, c'était très polarisant. Par exemple, pour mes beaux-parents qui habitent en région, dans des endroits très verts, la Défense, c'est le symbole des tours. Et on avait des personnes qui nous disaient « Quelle horreur, mais comment vous pouvez, mais quoi, mais qu'est-ce ?» Alors déjà, en expliquant notre situation, c'était « Ah, mais il y a des pavillons, tout va bien. » Alors qu'en fait, en y vivant, nous, on a beaucoup aimé la Défense des tours. Exactement. Par exemple, moi, j'y allais y faire de la marche rapide. Et puis, ce que les gens oublient, c'est que c'est un monde sans voiture. Donc, pour nous qui avions un enfant qui commence à faire du vélo, à faire ce genre de choses, c'était un lieu de promenade extraordinaire. Et puis, le parvis de la Défense, c'est un endroit qui a... une zone événementielle. Il y a tout le temps un concert machin, une activité ceci. L'été, le soir, il y a le club de danse qui organise des sortes de cours ouverts, enfin des endroits, ils mettent de la musique, les gens dansent. Donc en fait, les gens qui parlent de la Défense sont les gens qui y travaillent et qui du coup ne voient pas tout cet aspect-là. Mais la Défense est un vrai quartier d'habitation, ce que les gens ne savent pas, organisé en plus autour de patios, dans un monde piéton. Donc ça a son charme aussi. Et puis au-delà de ça, les tours, pour certaines, sont vraiment très belles. Un soir d'été, les reflets du soleil dans les tours, c'est quelque chose quand même d'assez assez beau, que nous, on s'amusait à photographier, par exemple. Et puis, et puis en plus, on est sur, sur l'axe de... sur l'axe de l'Arc de Triomphe. Ce qui fait que quand moi, je parcourais le parvis en marche rapide, j'avais en fait en face de moi l'Arc de Triomphe. À l'époque, il était encore visible, avec une espèce de petit lac artificiel au bout du parvis, juste avant la Seine, qui était très très beau, très chouette. Bon, ça depuis, ça a été remanié.
Et alors, on en part d'un endroit pareil quand même.
Eh bien, on en part parce que, comme pour les mêmes raisons qu'on est parti de Paris, pour les mêmes raisons que beaucoup, beaucoup de gens, en fait, on en part à cause de l'immobilier. Donc, notre deuxième enfant est né, on avait techniquement les moyens d'accueillir dans notre appartement, mais il se trouve qu'on avait pu mettre de l'argent de côté, qu'on avait cette chance-là d'avoir un petit capital, et puis on s'est dit, on voudrait acheter. Et alors là, acheter à Courbevoie, c'était impossible. On pouvait acheter 50 mètres carrés. Pourtant, on avait quand même une somme relativement conséquente. Alors, on a commencé à s'éloigner un petit peu. On a essayé Bois-Colombes, etc. Mais bon, on avait la chance d'avoir un appartement par la 20% patronal, donc assez grand, assez confortable. L'idée, c'était d'acheter, mais sans perdre en qualité de vie. Donc, il fallait que le prix soit suffisamment bas pour qu'on puisse continuer à faire des voyages, etc. Mais qu'en même temps, on gagne en espace. Et c'est là qu'en fait, on a fait des recherches. C'est beaucoup moi qui m'y suis collée quand même. On a trouvé en 3-4 mois, on a fait ça un peu sur un coup de tête, une agence immobilière nous a fait visiter un ancien corps de ferme à Saint-Gratien, dans le Val-d'Oise, juste de l'autre côté de la Seine.
Oui.
Et qui avait été complètement retapé. Alors, on n'a pas acheté cette maison-là. On a acheté une autre maison, mais qui, elle, était un ancien atelier de maréchal Ferrand, qui datait de 1850, un truc comme ça. Et donc, on a découvert cette petite ville de Saint-Gratien, sur laquelle on a eu un petit coup de cœur, et puis on est aussi un peu... j'ai facilement des petits coups de tête. Et donc, on a acheté cet endroit, 150 mètres carrés, pour des mensualités qui étaient vraiment défiant toute concurrence.
Et pas tout à refaire.
Et surtout, ce qui pour nous était très important, l'autre paramètre, c'était que je travaillais un week-end sur deux, et on n'avait qu'une seule voiture. Et si je partais à ça, alors, et j'avais besoin de la voiture pour aller au travail. Et donc, du coup, ça voulait dire qu'un week-end sur deux, mon mari se retrouvait seul avec deux enfants et qu'il devait pouvoir faire les courses, avoir des activités, etc., tout ça à pied. Et ce qu'on voulait, nous, c'était une vraie ville, c'était pas une ville dortoir. Ce que n'était pas la Courbevoie, par exemple. Courbevoie n'était absolument pas une ville dortoir. Et d'ailleurs, pour revenir à Courbevoie, les parents des amis de mes enfants, donc il y avait les petits qui étaient en maternelle, primaire, etc., un certain nombre de parents étaient allés dans ces écoles, venaient de Courbevoie et n'avaient pas quitté Courbevoie. Donc il y avait pas mal de gens qui, comme nous, finalement, ont été en transit, même si ce n'était pas prévu comme ça à l'origine. Et puis, il y avait un certain nombre de gens qui, pour qui il était hors de question de quitter Courbevoie. Enfin, je me souviens d'une amie qui était devenue avocate, qui était allée à la fac de Nanterre alors qu'elle aurait pu aller à Sas, parce qu'elle aimait cette idée de rester un peu dans ce secteur, hors Paris, complètement avec une identité forte qui était Courbevoie. Et donc Saint-Gratien, eh bien...
Alors ça me paraît le bout du monde.
Alors Saint-Gratien, ça paraît le bout du monde, évidemment, quand j'en parle, personne ne connaît. Et Saint-Gratien, en fait, est bordé par deux villes qui sont assez connues, Enghien et Argenteuil. Et alors déjà, Enghien, pour la petite histoire, sur l'un de mes premiers postes, j'avais un collègue qui venait d'Enghien, et alors à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire en Enghien? Et je lui avais dit d'ailleurs... jeune et assez spontanée, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas en Enghien, enfin, c'est à l'autre bout du monde, ok, il y a un lac, bon, enfin bon, ça va, hein. Bon, maintenant, je comprends beaucoup plus l'intérêt d'Enghien et l'intérêt de Saint-Gratien. Et Saint-Gratien, en fait, c'est vraiment une bulle. Et là aussi, alors, il y a des gens qui sont nés, qui sont restés. Il y a des gens qui viennent d'Épinay, parce qu'à côté de Saint-Gratien, il y a aussi en bordure Épinay, qui ont réussi et qui, du coup, cherchent des endroits un peu plus cossus, un peu plus agréables, ce qui est le cas de Saint-Gratien. Mais surtout, Saint-Gratien, c'est une petite bulle parce que c'est une ville qui peut fonctionner en vase clos. Il y a le petit supermarché de ville, il y en a même deux, trois. Il y a le marché, il y a même un supermarché coopératif qui est un supermarché créé par une coopérative de l'Aveyron, donc on a des produits frais. Et qui en plus a des accords avec des cultivateurs
les maraîchers bio et autres.
Voilà. On a un cinéma, qui est un cinéma d'art et essai. On a une salle de théâtre. Évidemment, il y a les écoles, le collège, le lycée. Il y a un certain nombre de clubs de sport, notamment un club d'escrime dans lequel il y a une championne olympique qui a été médaillée cet été. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui fait qu'on peut vivre en autonomie à Saint-Gratien. J'ai envie de dire un peu loin du bruit du monde. Et c'est pas forcément comme ça qu'on avait vu les choses. Surtout moi, venant de Paris, j'aime bien être au milieu de la vie. Et puis finalement, bah, avec le temps, alors on a acheté une première fois, on a revendu cet été, on a racheté autre chose, mais à 500 mètres de là où on était. Et finalement, on s'est posé il y a un an, des questions très profondes avec mon mari, puisque je venais de réussir le concours des IRA. J'avais réussi l'IRA de Lille, donc je pouvais être nommée dans les Hauts-de-France, en Normandie ou en Île-de-France. Et comme on aime la voile, comme notre fils aîné est un passionné de plongée, on s'est dit, est-ce qu'on en profite pour partir au bord de la mer? Est-ce qu'on lâche tout pour partir au Havre, Cherbourg, enfin, ce genre de choses? Et on avait fait un calcul très basique qui est de se dire que notre fils aîné a 14 ans, notre fils cadet a 8 ans. Dans 5 ans, notre fils aîné vivra sa vie sans nous. Notre fils cadet sera quand même pas mal autonome. On pourra recommencer à avoir nos soirées, à faire nos week-ends. Et à ce moment-là, on sera très heureux de retrouver nos amis parisiens. On sera très heureux de retrouver toutes nos activités d'étudiants, de cinéma, de clubs de sport, de ceci, de cela, qui finalement, malgré tout, restent à Paris. Et Saint-Gratien a l'avantage d'être, alors, juste à côté de la gare d'Hermont-Aubonne, où il y a une ligne de train qui, en un quart d'heure, amène à la gare du Nord, une ligne de train qui, en 20-25 minutes, amène à Saint-Lazare, et le RERC. Ce qui fait qu'on n'est jamais coupé de Paris. Et c'était...
Même le soir. Souvent le problème.
Alors le soir, jusqu'à minuit, minuit et demi. Le dernier train doit partir à minuit, minuit, une heure, un truc comme ça. Mais donc, c'est pas infaillible. C'est pas comme quand j'étais étudiante à Paris où, en fait, on rentre à pied. Hein. À 3h du matin, 4h du matin, on rentre à pied sans aucun problème, quel que soit le quartier. Moi, j'ai toujours fait ça. Il n'y a pas ça. On est limité pour ça. Mais on a envie d'aller voir une expo en une demi-heure. On peut être à... Ouais, Gare du Nord, je compte une petite demi-heure.
Et vous le faites ?
Alors, pas tant que ça. C'est là que je me suis rendu compte qu'on a quand même nos frontières mentales qui font que, d'abord, il y a ce côté bulle. Il y a le fait que nous, maintenant, on a une bulle à l'intérieur de la bulle puisqu'on a maintenant une maison avec jardin. Et en fait, on a parfois un peu de mal à quitter ça. Mais on le fait quand même. On va de temps en temps au musée. On va voir la famille qui, elle, elle est toujours à Paris. L'année dernière, on avait repris contact avec notre ancien club de sport. On pratique, mon mari et moi, on pratiquait un art martial. Donc, on allait spécifiquement à Richard Lenoir, même si c'était un peu le bout du monde, pour le plaisir de voir ses amis. Donc, on a quand même toujours ce lien-là, quoi.
D'accord. Voilà. Donc, c'est drôle. Et c'est bien, tu dis, mais moi, je suis parisienne, évidemment.
Et en même temps, je ne le suis plus.
Et en même temps, Saint-Gratien, mais ça montre que, effectivement, petit à petit, les périphériques ne sont plus des frontières absolues.
Oui.
Hein, et qu'il y a quand même des va-et-vient possibles.
Alors, pour la petite histoire, j'ai travaillé au cimetière parisien de Pantin pendant 4 ans. C'est comme ça que je suis rentrée dans l'administration et à la ville de Paris. Et puis, au bout de 4 ans, j'ai passé 2 concours. Le premier m'a amenée à Bondy pendant 4 mois, où là, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Non pas parce que c'était un quartier pauvre, l'image de Bondy, etc., etc., mais parce que l'endroit où j'étais n'avait rien autour. Il n'y avait aucune boutique, il n'y avait aucun restaurant. Pour manger le midi, et moi je travaillais dans un EHPAD, j'avais pas d'autre solution que les repas de l'EHPAD. Et en fait, ça a été assez violent pour moi. Et ça m'a même... Alors j'y allais en voiture, mais à un moment, j'étais sur Paris, j'avais dormi chez des amis ou tout ça. J'essayais d'y aller en transport, ça a été l'enfer. Et vraiment, j'ai jamais vécu ça. Et j'ai compris que, en fait, mais ce qui est dit un peu partout, que le problème de Bondy, c'est pas Bondy. Le problème de Bondy, c'est justement le lien entre Bondy et ce qui est autour et le fait qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, je nuancerais parce que j'ai connu des gens qui travaillaient du coup plutôt dans le centre-ville où là, il y avait des choses. Mais le drame de cette EHPAD et des tours qu'il y avait autour, où il n'y avait rien, il n'y avait pas de boutique, il n'y avait aucune distraction. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, ça a été un passage un peu rude qui a duré 4 mois. Et au bout de 4 mois, je passe un autre concours, toujours ville de Paris. Et là, je suis nommée dans le 14e arrondissement, à la mairie du 14e arrondissement. Et là, en plus, du coup, je retrouve un quartier que je connais parce que 14e,
d'Orléans.
J'allais dire porte de Clignancourt, mais non, c'est de l'autre côté de la ligne, porte d'Orléans, Montrouge, etc. Je connais tout ça évidemment par cœur. Je suis très contente de retrouver cet endroit-là. Les quartiers sont très agréables. Et puis, on a régulièrement des réunions à l'hôtel de ville, enfin, pas à l'hôtel de ville, mais rue Lobo, qui est juste derrière l'hôtel de ville. Je me souviens, en sortant d'une réunion, on passe le pont de la Seine pour aller prendre le métro à Cité. Et ma collègue me parlait, et à un moment, au milieu du pont, je lui ai dit « Attends, juste 5 minutes. » Et là, je respirais, j'ai savouré, j'ai dit « Ah, ça fait du bien. » Ça faisait du bien de retrouver Paris. Et c'est vrai que ça, moi, je le ressens quand même à chaque fois que j'y vais. Et c'est en ça que je dis que je suis vraiment parisienne. Quoi qu'il arrive, ça reste ma ville. J'y vais toujours avec bonheur, toujours avec un vrai plaisir. Là, je suis sur un poste où je bouge dans tout le 92 et régulièrement, soit dans le 13e, soit dans le 15e. Et à chaque fois, je me dis, ah, chic, j'ai une journée de réunion dans le 15e ou j'ai une demi-journée de réunion dans le 15e. Je vais prendre le métro, je vais me retrouver gare de Saint-Lazare, que j'adore. Je vais même...
C'est ça, c'est joli ce que tu dis, parce qu'il y a à la fois le bonheur de s'arrêter sur le pont et de regarder couler la Seine, hein, que tu évoquais. Mais j'adore Saint-Lazare, il y a aussi, au fond, l'atmosphère agitée oui. de la ville de Plaine.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça. Après, j'ai toujours aimé ça. Je me souviens que petite, par exemple, j'aimais bien les grands magasins à Noël. Ce qui maintenant est un enfer pour la plupart des gens normalement constitués, et ce qu'il était déjà à l'époque. Mais moi, j'aimais bien l'effervescence, j'aimais bien la vie, j'aimais bien ça. J'ai toujours aimé ça. Et même les embouteillages en Paris. L'autre jour, j'ai été un peu coincée. Je me suis retrouvée avec une voiture dans le 13e et je devais remonter à Saint-Gratien, donc qui est dans le nord-ouest. J'ai mis plus de 2 heures. Mais ce qui était dur pour moi, c'est qu'en réalité, j'étais en retard. J'étais censée être à la maison, m'occuper des enfants. Donc, j'ai été très, très en retard sur mon planning. Donc, j'étais au téléphone avec eux pour gérer ça. Mais la réalité des embouteillages, je ne vis pas si mal que ça. Et je suis passée par l'intérieur de Paris. Alors là, pour le coup, c'était autant ma volonté que Google Maps. Ça collait bien, ça m'arrangeait. Mais en fait, même les embouteillages à l'intérieur de Paris, ça ne m'atteint pas plus que ça. Alors, je vais râler beaucoup, parce que ça, c'est ma personnalité au volant, mais ça va.
Il y a une radio dans ta voiture ?
Oui. Alors, en plus, je mets la radio, donc j'ai les informations, les émissions, etc. Je suis contente, je suis dans ma voiture, je suis bien, je suis heureuse. Et puis, ben, y a la ville qui défile autour de moi, il y a les gens qui sortent du boulot, qui ont leur petite vie, et moi, j'adore ça. Et quand j'allais à mon club de sport l'année dernière, j'y allais le mardi soir, donc je faisais la Garenne-Colombes, Richard Lenoir, je mettais 1 heure, et je sais que c'est très mal pour le climat, pour tout ça, j'ai cette conscience-là, mais en vrai, au fond de moi, c'était un vrai plaisir. Donc je pense que par cet aspect-là, je suis encore très parisienne. Maintenant, moi, j'ai aussi un truc...
Attends, oui? J'ai une question. Est-ce que il y a quelque chose pour les gens qui les caractériserait pour toi, ou qu'est-ce que c'est un Parisien, un vrai Parisien?
Alors, un vrai Parisien, pour moi, en plus, moi, je viens des quartiers populaires de Paris. Je viens du 18e. J'ai fait la Goutte d'Or, j'ai fait la Porte de Clignancourt, j'ai fait la Porte Montmartre. J'ai habité également à Belleville. J'ai habité un petit temps dans le 12e, sur la Coulée Verte, du côté de Daumesnil. J'avais beaucoup plus de mal avec ce quartier-là, que je trouvais assez vide le soir. Oui. J'étais plus rassurée de rentrer à Belleville à 3h du matin en étant étudiante avec mes petites robes courtes et mes bottes en cuir que dans le 12e. Parce que dans le 12e, je me disais, si je crie, il n'y a personne. Oui. Donc, je pense que les Parisiens, c'est... Il y a quand même toujours, malgré tout, j'espère, une dimension quand même populaire. Je sais que ça s'est beaucoup Airbnbisé, que ces couches populaires-là sont quand même beaucoup parties, mais malgré tout, notamment dans le 14e, il restait encore un peu un Paris un peu populaire. Et je trouve que les gens... Alors, on va parler de bobos, et je pense que moi, je suis typiquement une bobo. Hein. Mais les bobos parisiens, les franges qui ne sont pas populaires à Paris, qui ne sont pas, qui ont les moyens, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément nées avec. Ce sont des personnes qui sont nées avec un vrai capital social, mais pas forcément un capital financier, et qui, du coup, ont une culture qui n'est pas forcément une culture...
d'héritier bourgeois.
Exactement. Donc, pour moi, malgré tout, Paris garde un côté un peu populaire, même si ça s'efface, même si c'est en filigrane, il y a quand même encore ça. Moi, j'estime que je suis une bobo.
Donc, t'as rien à voir avec le Paris Ouest, malgré la défense?
Ma mère est née là-bas. Ma mère est née là. Alors, ma mère a habité du côté de la maison de la radio. Elle est née à la clinique de la CGT. Donc, il y a un peu cet écart-là. De même que mon père habite actuellement dans un 120 mètres carrés du côté de Gambetta, ce qui est incroyable. Mais il est le fils d'un ancien Déal, d'un ancien Ford Déal. Donc, et je pense que ça, c'est assez, pour le coup, caractéristique des Parisiens. Le Parisien, moi, je trouve, est capable de grands écarts absolument fabuleux. En y réfléchissant, ouais, c'est peut-être ça, leur caractéristique, c'est cette capacité à faire des grands écarts. Et du coup...
Qui du coup les rend plus tolérants que alors, la province ?
Non, je dirais pas forcément ça. Parce que le Parisien est quand même, il faut le dire, très fortement râleur. Il peut être capable de hurler contre les cyclistes et la fin des, enfin la multiplication des pistes cyclables, l'augmentation des embouteillages, et en même temps être le premier à dire qu'il faudrait plus d'arbres dans Paris et moins de pollution. Donc on a une manière de comment dirais-je de gérer la contradiction assez facilement nous les Parisiens. Et je dirais qu'on a quand même aussi un côté grande gueule, peut-être issu aussi de ce côté populaire là. Moi je vois mon arrière-grand-mère que j'ai connue, qui était née dans le Poitou, mais qui était une caricature de la Parisienne, enfin c'était une poissonnière. Vous regardez Astérix, franchement c'est les dames d'Astérix, c'est ça. C'est, elle apostrophait les gens, c'était impressionnant, enfin il ne fallait pas être en face d'elle. Donc il y a ce côté un peu poissonnière populaire dans Paris malgré tout, et qui ça aussi reste, je trouve, quand on s'invective à coups de voiture, en voiture à coups de klaxon, etc. Quand,
c'est plus le klaxon que la rhétorique, malheureusement, je trouve.
Bah, ça c'est dépend, avec les cyclistes, ça reste très... Moi, je me souviens, un jour, j'allais me garer, alors c'était pas à Paris, c'était juste derrière le périph à Saint-Ouen. Je vais me garer, il y a une voiture qui... J'en commence à enclencher ma marche arrière, doucement, tranquillement, et là, il y a une voiture qui me pique ma place. Je vais me garer, alors en plus j'avais eu du mal à la trouver, donc je me regarde un petit peu plus loin, 5-10 minutes plus tard, je repasse devant la voiture. En fait, j'ai tagué la voiture à coups de rouge à lèvres sur son pare-brise. Ben voilà, ça je trouve qu'il y a un côté un peu parisien comme ça, d'invective. Alors maintenant ça se déplace sur d'autres terrains, ça se déplace avec les cyclistes. Je suis la première à hurler sur les cyclistes et à faire du vélo dans Paris. Je faisais du vélo dans Paris, place de l'Étoile et place de Bastille, à l'époque où il n'y avait pas de piste cyclable. Donc voilà, on est quand même... Il y a ce côté quand même là, très, un peu bruyant, un peu manifestant.
De Paris, des manifestations.
Oui, alors ça, pour moi, ça c'est... quand tu m'as demandé quelle était la caractéristique un peu des Parisiens, pour moi, Paris, quand je veux expliquer Paris, je parle des manifestations. C'est moins vrai maintenant, et pour moi c'est un vrai sujet, mais j'en parlerai après. J'ai une correspondante allemande que j'ai connue en 6e et qui est encore une amie, et qui était venue à Paris, et à l'époque, je me souviens, je devais avoir une quinzaine d'années, il y avait je ne sais plus quelle réforme à l'époque, qui évidemment concernait les lycéens, parce que quoi qu'il arrive, à un moment, ça concerne les lycéens, et donc du coup, collégiens, je ne sais même plus ce qu'on était toutes les deux, et donc du coup, je lui dis, bah, écoute, cet après-midi, je te préviens, on fait grève, et puis il y a manif. Elle me regarde, elle me dit, pardon. Je lui dis, non, mais t'inquiète pas, je t'expliquerai. Et donc, j'embarque ma correspondante, on prend le métro, et on se retrouve à Nation. Et là, c'était des manifs, style manif pour les réformes des retraites. Et quand je dis ça, je pense à celle de 95, que j'ai faite à l'époque. Et donc, du coup, c'était ce genre d'énorme manif où la tête de cortège arrive, que la queue n'a pas complètement quitté Nation, en général entre Nation et République, ou entre République et Bastille, enfin ce triangle d'or de la manif, un truc énorme. Et évidemment, il y a les sonos, c'est une compétition de sonos à chaque fois entre chaque groupe syndical, chaque syndicat. Il y a les ballons, il y a les fumigènes, il y a toujours les cheminots et la métallurgie qui font leur show. Il y a évidemment les saucisses merguez, faut pas plaisanter avec ça. Et donc, ma correspondante absolument ébahie, me regarde, elle me dit, mais c'est quoi ce truc? Je dis, bah ça, tu vois, ça, c'est une manif. Et pour moi, alors je ne peux pas parler de ça en province parce que je ne le connais pas, mais ça, à Paris, c'est incontournable. Et je me souviens avoir manifesté, donc en 95, moi je suis de 82, donc entre 95, je n'étais pas vieille, j'avais 13 ans. Je me souviens avoir manifesté toute petite. En plus, moi, mes parents sont issus du monde enseignant, donc un milieu quand même très syndiqué. Je me souviens avoir manifesté enceinte de mon premier enfant, c'était ben, toujours sur la réforme des retraites en 2010. Voilà, il y a cette tradition-là. Et je suis très chafouine de ne pas avoir pu transmettre cette tradition-là à mes enfants.
C'est trop tôt pour savoir.
Alors, non, parce que moi, je me souviens avoir manifesté sur les épaules de mes parents. Là, je ne porte plus mes enfants sur les épaules. Il y a quand même eu cette rupture-là. Je commence à le faire avec le grand, qui a 14 ans. Le petit, j'évite. Parce que en fait, on a connu un durcissement du maintien de l'ordre à partir un peu après 2010, grosso modo, qui fait qu'il est devenu dangereux d'emmener des enfants en manifestation.
Si je peux introduire un point, pas de contestation, mais il y avait des services d'ordre extrêmement bien organisés à l'intérieur des manifs. Ils ont disparu.
Alors moi, je pense pas forcément ça. Je pense que les codes de la manifestation ont changé. Je vais prendre un exemple. Je me souviens d'une manifestation au lycée. Je devais avoir 16-17 ans. Et avec une amie, évidemment, on sort Place de la Nation, comme toujours. Et en fait, on était un peu en retard. On avait traîné. Enfin, voilà, on était... Et on sort de la bouche du métro et on se trouve littéralement entre les casseurs et les policiers. Avec mon ami, ni une ni deux, on a fait demi-tour, on a contourné le truc, on a dû sortir à une autre bouche de sortie, ça posait aucun problème, on a rejoint la manifestation en tant que telle, et là, on était absolument en sécurité. On n'a pas vraiment eu peur, parce qu'en fait, on connaît ces codes-là, on sait qu'en fin de manifestation, il y a une sorte de jeu de chat et de la souris entre les policiers, et ceux qui sont là pour en découdre, parce qu'il y a toujours eu ça, ça c'est pas nouveau. Mais les codes faisaient que ça ne concernait que la fin de la manifestation, que si on est au milieu, ça ne pose pas de problème. Et si on va voir, ben moi c'est une technique éprouvée depuis toujours, moi dans ces cas-là, je vais voir les policiers et je leur demande même directement où est-ce que je peux manifester en sécurité. Et en général, ça se passait bien. Donc, ces codes-là fonctionnaient. À partir de 2010, j'ai fait une manifestation il y a 5 ans, un peu moins, 4 ans, accompagnée avec mon père, mais sans mes enfants. On avait pris soin de ne pas prendre les enfants, justement. On n'était absolument pas serein. Parce qu'en fait, les rues sont totalement bouchées, ce qu'elles n'étaient pas avant. Et avec des forces de l'ordre qui sont visibles, ce qu'elles n'étaient pas avant. Avant, on savait qu'elles étaient là, mais ça ne tournait pas la démonstration. Et donc, du coup, je dirais que vraiment, les codes de la manifestation ont changé. Ça ne fonctionne plus pareil. Et je pense que représentants de l'ordre, comme syndicats, comme manifestants, comme casseurs, sont encore en train un peu de...
D'essayer les...
De chercher le mode d'emploi. C'est comme ça que je le vois.
On en vient au cimetière quand même.
Oui. Alors,
comment devient-on ? Tu dis, j'ai passé les concours de la ville de Paris.
Alors, totalement par hasard, moi j'ai une formation en art, de manière globale. J'ai une maîtrise de cinéma, une licence d'histoire de l'art et archéologie, une licence d'histoire. Et j'avais passé un bac plus 5 en communication pour faire de la médiation culturelle. Grosso modo, c'était ça le plan. J'ai eu une petite expérience en privé dans la communication. Et puis, je me suis retrouvée au chômage, je suis tombée enceinte. Et au bout d'un moment, il a fallu que je retrouve du travail. Bon, tout allait pas trop mal jusqu'à la crise de la dette. Or, les budgets de communication sont les premiers budgets qu'on coupe. Donc, je me suis retrouvée... la trentaine, avec une expérience trop faible pour pouvoir me vendre comme senior, avec une expérience trop importante et surtout pas de convention de stage, donc je ne pouvais pas être stagiaire pour engranger un peu plus d'expérience. J'avais un enfant en bas âge, ce qui est ça en général un peu rédhibitoire, et j'étais une femme. Donc j'ai essayé un certain temps, et puis au bout d'un moment, 2-3 petits contrats, mais qui débouchaient sur rien. Et puis, au bout d'un moment, bah, tout simplement, j'ai décidé de passer les concours de la fonction publique et j'ai pensé aux bibliothèques. En fait, j'ai pensé aux bibliothèques et du coup, j'ai pensé au concours de la fonction publique. Donc, je fais une prépa bibliothèque et puis j'étais dans une situation personnelle qui faisait qu'il fallait absolument que je trouve un métier quel qu'il soit. Et donc, j'ai passé tous les concours que j'ai pu. J'en ai passé une grosse vingtaine. Et ironie du sort, je me retrouve admissible à un concours sur lequel je m'étais inscrite en ligne à 3-4 heures du matin, sans trop lire les petites lignes, qui était agent d'accueil et de surveillance principale, ville de Paris. Je me dis, la ville de Paris a des musées. Si c'est pour gérer l'accueil d'un musée ou la surveillance des tableaux, ça me va bien. Et puis après, on verra comment j'évolue. Donc, je passe le concours. Au moment de l'écrit, je me rends bien compte qu'il n'est pas question de musée, qu'il y a d'autres choses derrière.
Très attention.
Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, en plus, je me retrouve alors, à passer ce concours. On devait être 2000 sur un plateau de télévision de la Seine-Saint-Denis qui avait été loué pour l'occasion et qui avait été vidé pour l'occasion. Donc 2000 personnes, 2-3 000 personnes, ouais, c'est à peu près 2-3 000, assises chacun sur leur petite table à 1,50 m d'écart les uns des autres. C'était quand même un truc assez impressionnant. J'avais jamais trop vécu ça. Et puis à plancher sur des sujets où on me dit « Alors, vous êtes responsable de la sécurité d'un grand cimetière parisien, une célébrité se fait inhumer, comment vous organisez le cortège ?» À me dire « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Puis à répondre « Mais vraiment, alors, avec ordre, parce que ça, c'est quelque chose que je sais faire, avec une certaine réflexion, un peu de bon sens, à réfléchir, bon, alors, comment je fais le truc ?»
D'expérience des manifs.
Peut-être, aussi. Et donc, du coup, là, je fais mon truc. Il y avait une note de synthèse à faire. Il y avait un rapport. Donc, on me décrivait des incidents qui se passaient dans une mairie, comment je gérais la situation. Et il fallait que je l'écrive dans un rapport. Et puis, j'avais un QCM sur... QCM plutôt sur l'administration, par exemple... qui avait rédigé la Constitution de la Ve République, enfin ce genre de choses. Bon, un peu interloqué, je me dis, au point où j'en suis, je suis là, je fais ce concours, je le passe, et contre toute attente, je suis admissible. Je passe un oral où, là, je me dis, alors là, il va quand même falloir que je sais faire le grand écart, mais alors un grand écart pour expliquer que je veux travailler dans la sécurité, là, ça va devenir un peu compliqué. Et coup de chance, je passe un oral où les questions furent sur des mises en situation où je me fais mes lessivés. Littéralement, j'avais l'impression d'être un boxeur sur le ring. Et la cloche sonne avant qu'on ait le temps d'aborder mes motivations. Donc, tout allait très bien. Et sur les 20 concours que je passe, je me retrouve admissible à celui-là. Bon, je suis admise sur liste complémentaire. Et donc, je me dis, bon, bah, je verrai bien. Je ne sais pas très bien comment ça marche. Au bout d'un moment, j'appelle quand même la mairie de Paris en disant « Mais, comment ça marche ?» On me dit « Bah, vous devez vous présenter à la réunion de demain. » « Ah bon ? Ok. » Et on me dit « En fait, oui, il y a des gens qui sont désistés. Apparemment, on n'avait pas votre bonne adresse, donc vous n'avez pas eu les informations. Mais il y a une présentation des postes. Vous êtes attendus. Et vous avez le choix entre des postes en mairie d'arrondissement pour gérer la sécurité des mairies d'arrondissement. » Dans les cimetières ou dans les parcs et jardins. Bon, j'assiste à la réunion qui présente les postes. Les parcs et jardins, je me dis, hors de question, jamais de la vie. D'abord, parce que les parcs et jardins, en été, ça ferme à 21h. Moi, j'ai un enfant en bas âge, et j'y tiens, mon enfant. Ensuite, les parcs et jardins, la sécurité dans les parcs et jardins, c'est quoi ? C'est dire aux enfants qui sont montés sur les jeux qu'il ne faut pas monter sur les jeux parce que c'est dangereux. Me faire engueuler par les parents des enfants qui sont montés sur le jeu parce que j'ai dit aux enfants qui montaient sur les jeux qu'il ne faut pas monter sur les jeux. Virer des SDF qui n'ont nulle part où aller. Empêcher des petits jeunes de fêter le bac. Ouh là là, je me dis non, ça vraiment, j'ai pas envie. Vraiment pas. Après... il y a les cimetières. Les cimetières, j'encadre une équipe, ce qui n'est pas forcément le cas dans les parcs et jardins. Ou en tout cas, j'encadre une équipe, mais je fais les fermetures avec eux, ce qui m'intéresse très moyennement. Les cimetières, j'ai de l'opérationnel, mais j'ai beaucoup d'encadrement. Je me dis, bon, en plus, on parle quand même d'un métier que je ne connais pas, que je ne pratique pas. Donc, je me dis, faire de l'opérationnel sur un truc que je n'ai jamais fait de la vie... je le sens pas trop. Donc, j'ai cherché des postes où j'ai pas trop d'opérationnel. Donc, il y a les cimetières où c'est un peu, pas, allez, on va dire, pas tout à fait moitié-moitié, mais voilà, à peu près ça. Et puis après, il y a les mairies, où les mairies, j'ai grosso modo un parc de sites, et notamment de mairies, et d'agents, et il faut que je fasse du management. J'ai beaucoup de management. Donc du coup, je choisis en 1 les mairies, en 2 3 cimetières, parce que les mairies, je sens que ça va être un peu compliqué, l'état d'esprit un peu, voilà. Les gens que j'ai rencontrés en entretien, ça a plus ou moins matché. Les cimetières, par contre, j'ai eu un bon feeling avec les cadres que j'ai rencontrés. Je me dis pourquoi pas. En plus, les infos que j'ai collent à peu près avec ce que je pense. En fait, le maintien de l'ordre, de la sécurité dans les cimetières, il y a de la sécurité bien sûr, puisqu'il y a des métiers dangereux, mais en même temps, on est quand même dans un contexte très particulier, le funéraire. Les gens ne sont pas là
pour faire la fête, sauf
parfois si, mais mais voilà, c'est quand même beaucoup d'accompagnement et ça me plaît. Bon, donc je pars sur les cimetières et c'est comme ça que je me retrouve un matin. On me donne un uniforme, une paire de rangers en toki-oki. On me dit, vous êtes la chef de brigade, responsable de la sécurité des biens et des personnes, responsable de la légalité des opérations sur le site. Bonne chance, madame. J'ai de la chance, j'ai un chef qui, lui, gère la sécurité de 2 cimetières. J'ai un conservateur et une conservatrice adjointe qui sont sur le site. Et j'ai un collègue qui, lui aussi, ne venait à l'origine pas de la sécurité, mais qui s'y est adapté, qui a 4-5 ans d'expérience. J'ai une deuxième collègue qui est une faisant en fonction, qui a plus de 20 ans d'expérience dans les cimetières, mais qui est faisant en fonction. Et qui sera ma tutrice. On m'explique entre les lignes que elle est prête à raccrocher les gants, que sa précédente expérience avec le cadre qui était à ma place est mal passée, qu'il faut absolument que ça se passe bien avec elle, et ça tombe bien parce que moi, de toute façon, j'y connais rien, et ça me semble stupide de prétendre y connaître quoi que ce soit. Donc je l'identifie très vite comme ma sauveuse. Et en fait, effectivement, on crée toutes les deux un lien qui perdure même encore aujourd'hui. Donc, je débarque dans ce cimetière, je découvre, et là, je bascule dans un monde qui est vraiment à part. C'est-à-dire que quand je parle avec mes amis, mon mari, à chaque fois, au début, dit « Non, non, mais laissez tomber, vous ne pouvez pas comprendre, c'est les cimetières. » Plus tard, j'aurai une autre responsable dans d'autres cadres qui, elle aussi, avait travaillé en tant que cadre dans les cimetières. Elle me dit « Mais Annabelle, quand on a encadré dans les cimetières, on peut encadrer partout. » Et c'est vrai. C'est vrai, les équipes que j'ai encadrées, j'ai rencontré des problèmes que je n'ai jamais rencontrés ailleurs. Enfin, il y a un agent de mon équipe qui a été révoqué 2 fois. Qui a été révoqué une première fois, qui a attaqué la ville de Paris pour vice de forme, qui a gagné, qui a été révoqué une deuxième fois. Mais j'ai vécu 4 ans.
Mais pourquoi ?
Alors, pour des choses, bon, la première fois, je ne l'ai pas su. La deuxième fois, pour des choses, bon, voilà... C'était quelqu'un qui n'était plus apte à travailler, fondamentalement, qui, dans son rapport à l'autre, ne pouvait plus travailler. Moi, je dis très souvent que l'une des particularités de la fonction publique, c'est qu'on emploie des personnes qui ne sont pas employables ailleurs. On a cette mission de service public-là, que personne n'assume vraiment, mais qui est bien réelle. On emploie des gens qu'on ne peut pas employer ailleurs. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui est imparfait, une porte de cimetière, qui a des grosses lacunes sur le plan professionnel, qui, par exemple, est incapable d'être à l'heure, qui a un savoir-être qui fait qu'il n'est absolument pas employable dans le privé, mais qui fait, bon an, mal an, un petit peu de travail que quelqu'un qui est à la rue. Qui est à la rue. Objectivement, à la société, ça coûte beaucoup moins cher. C'est quelqu'un qui est intégré, qui fait un petit peu, pas beaucoup, mais qui fait. Et ça, c'était ce que je pensais au cimetière, et c'était typiquement garder une porte de cimetière fait partie de ces métiers où on retrouve ces gens-là. Alors, pas que ces gens-là, bien sûr, mon équipe était très diverse,
mais quand même. Ces gens-là, c'est pas ceux qui creusent les tombes, si, aussi bien.
Alors, en fait, dans le cimetière où moi je travaillais, les cimetières de Paris, ce sont des choses très, des services assez lourds. Et moi, j'étais dans le deuxième plus gros cimetière d'Europe en activité. Donc, on avait des très grosses équipes, on avait une grosse charge d'activité. On a l'habitude, dans les cimetières parisiens, de dire qu'il y a deux types de cimetières. Il y a des cimetières plus musées et des cimetières plus d'activité. Les cimetières musées, typiquement, c'est le cas de Montmartre. Montmartre est un très bon exemple. On a une très forte affluence touristique. Montparnasse, c'est le cas aussi. Dans une moindre mesure, c'est le cas aussi du Père Lachaise, parce que le Père Lachaise a quand même une activité funéraire qui n'est pas négligeable non plus. Mais très clairement, les flots de touristes du Père Lachaise, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas. C'est le site touristique le plus visité de Paris, le Père Lachaise.
J'ai emmené mes petites filles au Père Lachaise. Elles voulaient aller voir la tombe de Chopin et de Proust.
Voilà, parce qu'en fait, le Père Lachaise, c'est un site qui a des célébrités, donc qui est connu de par le monde entier. Donc quand les touristes reviennent chez eux en disant « je suis allée au Père Lachaise », les gens s'y tuent très bien. C'est un lieu assez cosmopolite, puisqu'il y a des défunts de partout, et avec des sujets qui touchent tout le monde. Par exemple, il y a tous les monuments mémoriels liés au camp de concentration. Donc forcément, quand il y a des personnes juives qui visitent le Père Lachaise, c'est quelque chose qui a du sens, qui touche. Et en plus, et surtout, c'est un endroit gratuit. On ne paye pas quand on rentre au Père Lachaise. C'est assez facile d'accès, il y a le métro, c'est pas Versailles. Et c'est totalement gratuit. Donc les gens qui ont une journée à tuer, ils ont mis leur valise à la consigne avant de repartir prendre l'avion ou d'aller à la gare. Ils n'y passeront pas 3 heures comme le Louvre, qu'ils ont d'ailleurs souvent déjà fait. Ils passent le temps qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils vont voir ce qui les intéresse. Ils n'ont aucune contrainte et c'est complètement gratuit. Donc, du coup, c'est très, très visité. Donc, il y a ces cimetières-musées-là et il y a les cimetières d'activité, comme celui où j'étais, qui regroupent la très grosse louche, entre 50 et 100 personnes, entre 50 et 100 fonctionnaires. Moi, l'équipe que je dirigeais, c'était une vingtaine de personnes. Les fossoyeurs. Alors, donc, du coup, pour expliquer le fonctionnement de ces cimetières-là, il y a 4 équipes. Il y a une équipe d'administratifs qui gère donc la vie administrative du cimetière. Il y a une équipe d'accueil et de surveillance qui gère la sécurité et l'accueil des usagers. Il y a une équipe de fossoyeurs qui, à l'époque, gérait toutes les activités de fossoyage. Et il y a une équipe de cantonniers qui gère l'état du site et la propreté du site. Moi, je suis arrivée dans...
Pas de jardiniers dédiés.
Alors, pas dans mon cimetière, ça c'est sûr. Les cantonniers ont quand même une partie jardinage puisqu'ils font tout le désherbage, tout le débroussaillage, ce genre de choses. Mais ils n'entretiennent pas les fleurs, les plates-bandes, etc. Tout simplement parce que la ville de Paris a des équipes de jardiniers qui, par exemple, pour la Toussaint, vont intervenir pour fleurir le cimetière.
Ah, d'accord.
Mais ça n'est pas interne au cimetière. Après, quand je suis arrivée au cimetière, l'autre chose dont moi j'ai pris conscience très 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 vite et que je passais mon temps à répéter aux agents de mon équipe, c'est que il faut bien avoir conscience que le cimetière était là avant nous et qu'il sera là après nous. On est sur un site qui a été ouvert en 1880, à peu près, 80-90. Ça s'échelonne, les cimetières de Paris, c'est entre 1860 et 1890, grosso modo. Et donc, du coup, il est évident que c'est un endroit qui a une histoire, que si on est dans le bureau dans lequel on est, il y a des raisons, qu'il y a eu un avant et un après, qu'on est avec des gens, alors on peut avoir un mois ou deux mois d'expérience comme moi à l'époque, mais qu'il y a des gens qui ont 20 ans d'expérience, et qu'avant les gens qui avaient 20 ans d'expérience, il y avait d'autres gens qui avaient 20 ans d'expérience, et qu'il y a donc une histoire très très forte dans cet endroit. Une histoire que l'on manipule littéralement à main nue. Et donc, du coup, on n'est quelque part que de passage. Il faut bien avoir conscience de ça. C'est la même chose que la maison que j'ai achetée, qui a été construite en 1850. Les enfants étaient tristes de la quitter. Oui, mais c'était notre maison. Mon fils aîné m'a dit « Tu crois que je peux faire un petit tag à l'extérieur ?» J'ai dit « Mais on est de passage seulement. » C'est, cette maison, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Et voilà, c'est les cimetières, particulièrement à Paris, c'est très très vrai. Particulièrement à Paris, parce qu'après, bon, il y a des villes nouvelles partout, il y a des... c'est aussi un monde qui bouge beaucoup, hein, malgré tout. Et donc voilà, ça c'est un point important. Et dans l'histoire des cimetières, les cimetières parisiens, c'est très peu par rapport à ce que ça a été. On m'a expliqué, par exemple, que le cimetière parisien de Pantin, à une période, avait des menuiseries pour faire les cercueils, pour faire les étayages en bois, pour faire aussi les corbillards, avait des écuries pour gérer les chevaux des corbillards, avait des ateliers de maréchal Ferrand pour gérer les fers des chevaux, avait des ateliers de taillage de pierre, parce que le cimetière où j'étais, donc le cimetière parisien de Paris, pour ne pas le nommer, c'est 107 hectares, donc 107 hectares de voies pavées, donc du coup, il faut les refaire régulièrement. J'ai oublié le nombre de kilomètres qu'il y avait, mais ne serait-ce que l'allée principale entre les deux entrées du cimetière, qui n'est même pas la plus longue, hein, au passage, c'est 3-4 kilomètres. Vous imaginez ça sur 107 hectares. Enfin, c'est monstrueux en termes de taille. Donc, donc à l'époque, il y avait un atelier pour tailler des pavés et pour repaver les routes. Ça, c'est les quelques exemples qu'on m'a pu me donner, mais je suis sûre qu'il y avait plein d'autres corps de métier que je ne connais absolument pas. Et à l'époque, Pantin, c'était une ville dans la ville. C'était vraiment une ville à part entière. Et à Pantin, où j'étais, il subsiste des pavillons, dont certains sont encore habités, parce que certains postes nécessitent de loger sur place.
Donc, c'est un peu particulier quand même.
Ben, je sais.
Oui, non.
Pas. Alors, honnêtement, moi, je me suis posé la question d'y habiter. Parce que c'est des superbes pavillons des années 1900, avec un petit jardin, ce qui, quand même, en centre-ville, est un luxe incroyable. Alors, après, le problème du cimetière parisien de Pantin, c'est que c'est coincé entre Pantin et Aubervilliers, le long d'une route nationale qui quitte la porte de la Villette. Bon, faut avoir envie quand même, hein. Le quartier est pas très très engageant, mais dans d'autres endroits, très volontiers.
Oui, d'accord.
Et puis la question, puis les cimetières, contrairement aux parcs et jardins, les cimetières, à 18h ou 18h30, je ne sais plus, en été, ils sont fermés. Alors certes, ils sont ouverts
donc,
le week-end.
Fait un grand jardin.
Ça fait un grand jardin dans un espace. Ça fait un jardin dans un espace très grand, très vert, qui est calme le soir, un peu moins le week-end, mais enfin bon, voilà, quoi. C'est franchement pas désagréable, très loin de là. Et donc, du coup, les cimetières ont actuellement des gardes-portiers qui veillent sur la sécurité, enfin qui ouvrent et ferment les cimetières, et puis qui veillent sur la sécurité la nuit, qui sont mobilisables en cas de besoin. Ils ont des conservateurs qui, pour certains, habitent sur place, pareil pour les conservateurs adjoints. Ils ont d'autres encadrants qui, eux, parfois logent aussi sur place, à la demande. Et donc, du coup, y a un accord entre la ville et les personnes qui logent. Soit il n'y a pas de loyer, mais il y a un assujettissement, des astreintes, ce genre de choses. Soit il y a un loyer
modéré. Je peux arrêter non.
Soit il y a un loyer modéré, mais bon, voilà, c'est grosso modo, c'est habité.
Donc, il y a l'équipe. Mais le public, tu le voyais, tu avais
oui.
Une activité
oui.
D'accueil des
oui,
gens.
Parce que donc du coup, les brigades d'accueil et de surveillance, comme leur nom l'indique, font l'accueil des gens, réceptionnent les convois, s'assurent que les convois qui rentrent sont bien les convois qui sont prévus, parce que lorsqu'un cercueil entre dans un cimetière, théoriquement, il n'en sort plus. En tout cas, pas comme ça. Donc, un corbillard qui rentre, qui dit « Ah, je me suis trompé de cimetière » et qui ressort, non, ça, c'est pas possible, ça se passe pas comme ça. Donc, du coup, il y a un contrôle très strict des corbillards qui rentrent. Et puis, à la rigueur, un corbillard qui rentre et qui dit « Je me suis trompé » qui ressort de son point de vue. Bon.
Ça t'est arrivé, c'est possible ?
Ça, non, mais ça peut encore se jouer. Mais un corbillard qui rentre, qui dit « Moi, je veux enterrer telle personne, j'ai fait tout ce qu'il faut pour » et puis on se rend compte que finalement, non, on ne peut pas le faire ressortir. Donc, on peut se retrouver dans des situations administratives très complexes. Donc, du coup, il y a une vraie surveillance à l'accueil, une vraie attention portée à l'accueil dès qu'on voit. Et puis, ce qu'il y a, c'est que comme Pantin est très grand, ben, on peut rentrer en voiture. Tous les cimetières extramuros de Paris, donc il y a les cimetières à l'intérieur de Paris et il y a les cimetières à l'extérieur de Paris. Ça, c'est un point très important et j'expliquerai pourquoi après. Tous les cimetières extramuros, on peut y rentrer en voiture. Donc, du coup, on a un flot de voitures dans Pantin qui est très important. Et donc, du coup, forcément, il y a des barrières pour que les voitures ne rentrent pas à n'importe quelle allure. Est une attitude qui convient, elles sont répertoriées, etc., etc. Donc, tout ça fait que oui, il y a un vrai contact avec le public. Et puis, surtout, en France, on n'enterre pas comme ça. En France, il faut un représentant du maire ou le maire pour pouvoir enterrer sur la commune, ne serait-ce que pour s'assurer de la personne qui est enterrée. Donc, du coup, évidemment, Madame Hidalgo ne se déplace pas à chaque enterrement. Donc, du coup, les agents d'accueil et de police sont des agents assermentés qui ont la délégation de la maire pour pouvoir inhumer. Donc, ils assistent à chaque inhumation, vérifient à chaque fois donc, la légalité de l'opération, l'identité du défunt et que tout est fait à la fois en sécurité et en respect de la législation. Et la législation est assez dense quand même en matière mortuaire parce que le défunt est considéré comme une personne vulnérable. Et donc du coup, et ça moi j'y tenais beaucoup et ça a vraiment du sens, les défunts... Enfin, moi, tout au long de ma carrière, d'ailleurs, même indépendamment des cimetières, j'ai toujours dit à mes agents, réfléchissez, posez-vous la question de qui vous protégez. Quand vous avez une reconnaissance de paternité et que vous avez des doutes sur le papa, qui vous protégez ? Est-ce que vous protégez un enfant qui va devoir vivre avec un secret trop lourd pour lui ? Est-ce que vous protégez un homme qui est dans une situation de faiblesse ? Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir et qui ne se rend pas forcément compte de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous protégez une famille qui est en train de se constituer, qui a un vrai projet familial et dans ces cas-là, ça n'a peut-être pas forcément de sens de lui mettre du bâton dans les roues. Réfléchissez toujours à qui vous protégez. Et bien là, dans les cimetières, c'est la même chose. Qui on protège ? Est-ce qu'on protège la famille qui, par exemple, est victime de pompes funèbres indélicates ? Est-ce qu'on protège le défunt qui est victime d'une famille qui ne le respecte pas, qui ne respecte pas ses volontés ou ses souhaits ? Est-ce qu'on protège parfois même...
Attends, vous intervenez par exemple sur des cérémonies religieuses, ça doit arriver. Le défunt libre penseur dit jamais de...
Alors non, ça on n'interviendra pas là-dessus. Là-dessus, ça sera le juge de la famille qui interviendra. Mais par contre, je cherche des exemples concrets. Je me souviens d'un enterrement, je me souviens d'un jour, j'étais à mon bureau, ça commence toujours comme ça, le toki résonne, chef, on a un problème. Alors non, c'était même pas ça. C'était un monsieur et une dame qui rentrent dans mon bureau et qui me disent « Bon, écoutez, voilà, on est très en colère. Ça n'est pas contre vous et votre équipe. On vous le dit juste pour que vous le sachiez. Voilà, notre grand-mère a été inhumée sans nous. » Pardon ? Oui, elle a bien été inhumée ce matin à 9h30. Alors, je regarde le planning, j'ai dit oui, tout à fait. Voilà, ça n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas en faute là-dedans, mais elle a été inhumée sans nous, on n'a pas été prévenu par les pompes funèbres. Alors, on aimerait que la personne qui était là nous raconte. Donc, j'ai appelé l'agent pour qu'il raconte à la famille l'inhumation. Après, évidemment, on a fait plein de choses derrière, parce que ça ne pouvait pas rester comme ça. C'est insupportable pour une famille, ce genre de choses. Donc, on a, avec la conservatrice adjointe, mené un certain nombre d'actions, et cette famille a pu faire une cérémonie d'une autre manière. Pas exactement ce qu'elle avait en tête, mais il y a eu une vraie cérémonie, et ils ont pu commencer leur travail de deuil. Mais vous voyez, ce genre de choses, ça peut arriver. Et là... Typiquement, qui est-ce qu'on protège ? Ben, on protège une famille qui n'a pu pas pu faire son deuil.
Et les funèbres, on fait ça tôt pour pouvoir
En fait, ils ont alors, ils ont changé l'heure, ce qui en soi peut arriver, n'est pas forcément un souci, mais surtout, ils n'ont pas prévenu la famille.
Oui, oui.
Donc, il y a eu un certain nombre. Et donc, là, là-dessus, l'agent, à ce moment-là, en poste, avait insisté auprès des pompes funèbres en disant « Mais vous êtes sûr, il n'y a pas de famille ?» Et l'agent des pompes funèbres, qui était dans le cimetière et qui accompagnait donc la défunte, avait appelé son bureau et le bureau avait répondu « Bon, de toute façon, c'était un contrat obsèque fait d'avance, donc non, elle n'a pas de famille. Elle ne devait pas avoir de famille, c'est pas grave, allez-y. » Sauf qu'en fait, en regardant dans le dossier, ben, si, il y avait une famille. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Il y a des indélicats partout, y compris dans les pompes funèbres. Certains font très bien leur travail et quelques-unes ne le font pas. C'est pour ça d'ailleurs que les pompes funèbres sont réglementées par la préfecture et peuvent se voir retirer leur agrément. Et donc du coup, ben là, typiquement, la question c'est qui est-ce qu'on protège ? On protège la famille qui doit pouvoir faire son travail de deuil. Il y a des, je me souviens de cas où il y avait des désaccords au sein de la famille. Et bien là, on va protéger le défunt en disant « Stop, on arrête tout. Vous allez voir le juge aux affaires familiales et puis après, on fait.
Ouais. »
Mais là, en l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. C'est quelque chose que je n'ai pas vécu, mais on m'a raconté par exemple une exhumation ou en cours d'exhumation, à l'époque ça se faisait encore avec un commissaire de police, en cours d'exhumation, une exhumation qui était faite à la demande de la famille pour inhumer le défunt ailleurs, et bien en cours d'exhumation on s'est rendu compte que le défunt avait eu une première femme et des enfants qui n'étaient pas d'accord et qui n'étaient pas courants et qui surtout n'étaient pas d'accord. Évidemment quand on l'a su, le commissaire et les agents du cimetière ont dit alors là stop, on arrête tout. On referme, vous allez voir le juge aux affaires familiales et après éventuellement on fera une exhumation ou on ne fera pas d'exhumation en fonction de ce que décide le juge, mais là c'est le défunt qu'on protégeait contre les deux parties d'une famille qui s'entre-déchirait.
Ça doit être assez fréquent d'ailleurs ça.
Ça arrive, ça arrive. On m'a raconté aussi l'inhumation d'un enfant où la famille de la mère a chassé le père par exemple. Il y a voilà, des cas, la mort crispe beaucoup de choses dans les familles. C'est quelque chose qui est vraiment très à vif. Et effectivement, nous, les agents du cimetière, on est en contact de ça, mais quotidiennement. Et comme en plus, moi, j'étais la chef, j'étais celle qu'on appelait quand il y a un problème. Quand tout va bien, on ne m'appelle pas, bien évidemment. Et donc, du coup, j'étais là pour résoudre les problèmes.
Et au bout d'un moment, c'est pas trop usant, non, parce que tous tes boulots sont du même type, si je comprends bien. Le destin d'un petit enfant délinquant, c'est pas plus drôle maintenant.
Pas tout à fait. Alors, Marie disait, alors, moi je partage beaucoup mon travail avec ma famille, parce que pour moi, on passe 8 heures par jour, c'est quand même beaucoup, dans un lieu autre, parce qu'en plus, c'est enrichissant quand même. Et donc, du coup, partager ça avec ceux qu'on aime, moi c'est important. Donc je racontais beaucoup les histoires des cimetières, puis alors il y en a certaines qui sont très drôles, et donc du coup mon mari avait l'habitude de dire depuis qu'Annabelle est dans les cimetières, notre niveau de gore est monté d'un cran, ce qui est en partie vrai, mais moi ça ne m'a jamais vraiment pesé. Il y a eu des histoires effectivement moins drôles que d'autres, mais pour moi c'est de l'humain, c'est pas, ça me gêne pas. Je trouve ça plus difficile en plus. La mort fait qu'on est dans un moment où on a le beau rôle. On est là pour faciliter, pour aider les gens. Moi, je me souviens d'un enterrement un jour où on m'avait demandé un coup de main parce qu'il y avait beaucoup de voitures, il fallait faire la circulation. Truc très simple. Donc, je fais la circulation et à un moment, il y a quelqu'un qui descend de voiture, complètement illuminé, les yeux brillants, et qui me dit « Oh là là, vous ne devez pas vous souvenir de moi, mais vraiment, je voulais vous dire merci. » J'ai fait l'exhumation de mes parents avec vous et c'était un beau moment. Et en fait, eh bien nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ces moments qui ne sont pas forcément drôles soient des beaux moments.
C'est extrêmement dur, non ?
Non, ça doit être des beaux moments, ça doit être des moments où tout est à sa place. Je me souviens d'une personne, par exemple, qui avait perdu un bébé à la naissance 30 ans auparavant et puis avec son mari. En fait, ils avaient un caveau dans un autre cimetière, et puis comme c'était un enfant mort-né, il y a 40 ans, Il y a 40 ans, les hôpitaux n'avaient pas les mêmes politiques. Pour certains, c'était directement une incinération parce que c'était considéré comme un déchet humain, pas comme une personne. Et là, ils avaient eu de la chance, entre guillemets, l'hôpital l'avait considéré comme une personne, mais par contre, l'avait inhumé comme lui l'entendait. Donc, ils avaient contacté les cimetières, il y avait de la place en portant, on l'avait mis à portant, et puis voilà. Et la famille avait toujours dit, oh, un jour on rapatriera notre petite fille avec le reste de la famille, un jour on fera. On fait tout ça, on connaît tout ça, et puis le temps avait passé, 40 ans s'étaient écoulés, 35, 40, un truc comme ça. Et puis un jour ils s'étaient dit, allez, c'est maintenant ou jamais. Sauf qu'évidemment, un bébé, 40 ans plus tard, il reste pas forcément beaucoup de choses. Et donc du coup, quand on a exhumé cette petite fille, c'était très particulier, il y avait une atmosphère vraiment particulière, les parents étaient là. Et donc on a retrouvé des petits chaussons qu'on a mis avec ce qu'on a retrouvé de cette petite fille. Et en fait, ça aurait pu être quelque chose de douloureux parce que c'est un bébé, parce que c'est une histoire compliquée, parce que c'était un enfant qui était attendu, aimé. Et que je pense que les parents avaient fait leur deuil, mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Et puis, c'était au moment de la communion de la grande sœur. Et puis, la maman était occupée à courir dans tous les sens. Et en fait, ben pour eux, voilà, c'était... Je sentais, moi, c'est comme ça que j'ai interprété, quelque chose comme la conclusion de cette histoire, de leur histoire avec leur petite fille. C'était un moment qu'ils lui accordaient. C'était un moment où ils faisaient famille, tous les trois. Et puis, c'était un moment où les choses rentraient dans l'ordre, où cette petite fille retrouvait sa famille. Et très souvent, j'ai eu ce sentiment-là, qu'on était là pour faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Et c'est extrêmement gratifiant et apaisant pour tout le monde. Si on a la chance d'avoir un métier qui permet ça, mais c'est extraordinaire, moi, je trouve.
C'est étrange, cette impression de rentrer dans l'ordre. On constate qu'on n'est que poussière et qu'il ne reste rien sinon des petits chaussons.
Bah, il restait quelques petites choses quand même de cette petite fille. Et puis ce qui compte, alors là, bon, en plus on rejoint un sujet qui pour moi est intéressant, qui est celui de la maternité. Qu'est-ce qui fait qu'on est parent? Qu'est-ce qui fait que, moi je pense, mais ça c'est ma croyance personnelle, je n'ai pas la science infuse, qu'on est parent quand on se sent parent. Je pense qu'on peut être biologiquement parent sans être parent, qu'on peut ne pas être biologiquement parent tout en étant parent, et que ça a beaucoup à voir avec le sentiment. Eh bien, en fait, pour la mort, pour moi, c'est quelque chose d'un peu identique dans le sens où il faut que ça rentre dans l'ordre, que les liens s'emboîtent, que les choses soient comme elles doivent être. Et en même temps, là où ça devient compliqué, c'est que parfois, il y a des familles faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre, ça ne veut pas dire oui à tout ce que souhaite et veut la famille. Parce qu'il y a des familles qui, dans leur manière d'être en deuil, il y a quelque chose qui coince, qui ne se passe pas, et du coup, le travail de deuil ne se fait pas, le processus du deuil ne se fait pas, et du coup, va y avoir...
Tu appelles quelque chose qui coince?
Écoutez, nous, c'est très simple. Il y avait des tombes, on les regardait et on disait, cette famille-là, on va la voir souvent. On va avoir souvent affaire à elle. Et ça va être des familles qui vont venir 20 fois nous voir parce qu'il y a ceci qui ne va pas, parce que sur le bouquet de fleurs en plastique, il y en a une qui manque, on lui a volé, parce que il y a ça qui a été déplacé, parce que je voudrais savoir ceci. Et on sent que ça coince, que ça fait mal, qu'il y a un truc qui ne passe pas. Je vais vous donner une statistique. On estime en France que les tombes sont abandonnées au bout de 2 générations. C'est-à-dire qu'au bout de 2 générations, soit les gens ne savent même plus où est la tombe, soit en tout cas elle n'a plus suffisamment d'importance pour qu'ils l'entretiennent, qu'ils continuent la concession ou ce genre de choses. Et bien, en fait, je pense que nos défunts, ils continuent à vivre avec nous, bien sûr, ils sont toujours présents. Ça reste une cicatrice qui est toujours là, mais ça cicatrise. Il y a quand même quelque chose qui se passe qui fait que petit à petit, on est capable de se séparer. Mmh. Autant physiquement que mentalement. Et je sens qu'il y a des familles qui ne peuvent pas faire ça. Et quel que soit le défunt d'ailleurs, ça peut être des enfants comme ça peut être des adultes, il n'y a pas de... Je pense que le grain de sable est à chercher dans le lien et pas dans le défunt en lui-même. Ça peut être la manière dont il est mort, ça peut être... Je ne sais pas ça. Mais je constate que, pour le coup, ça se voit à la tombe. Ça se voit... et que quand je regarde ces tombes-là et quand je regarde ces familles-là, les défunts ont tous les profils. Ça n'est pas forcément certaines communautés, ça n'est pas forcément certains âges de défunts, ça n'est pas forcément certaines catégories socio-professionnelles, ça n'a rien à voir avec tout ça, ça a à voir avec l'événement en lui-même et ça a à voir avec le lien entre le défunt et les vivants. Et donc nous, au sein du cimetière, on est là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce grain de sable-là, dans la mesure du possible bien évidemment, parce que l'histoire des familles leur appartient. Mais en tout cas, on est là pour que ce grain de sable-là ne viennent pas de nous et pas de l'extérieur. Et c'est pour ça que je disais aux agents avec qui je travaillais que quelque part, c'est presque une pièce de théâtre. D'ailleurs, c'est une cérémonie. Il y a quelque chose du théâtre. D'ailleurs, j'ai une amie qui a perdu mari et enfant, qui a parlé, qui était très sensible aux lettres et au théâtre, et qui parlait de répétition, de théâtre pour l'inhumation de ses proches, en disant, ben voilà, on a répété nos textes, nos chansons, les enchaînements, etc. Il y a quelque chose du théâtre là-dedans. Et donc, du coup, ben nous, on est là pour la pièce de théâtre, pour faire en sorte qu'elle se déroule de manière à apaiser tout le monde.
Est-ce que ça... la déchristianisation massive, quand même, se mesure beaucoup au moment de la mort, et est-ce que des gens prennent le relais au funérarium, bien sûr, mais aussi au moment de l'inhumation?
Alors oui, il y a une déchristianisation, ça fait l'objet de formation, ça fait l'objet de sujets entre nous, professionnels des cimetières, de discussions, etc. Alors bon, parfois poussé ou pas poussé. Moi, j'ai une théorie que tout le monde ne partage pas forcément. Moi, je suis persuadée qu'on ne peut pas se passer de rituels et que c'est juste qu'on invente de nouveaux rituels. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec la mort, qui est la question du mariage. On ne se marie plus à l'église comme on se mariait à l'église avant. Ça, c'est sûr et certain. Pour autant, les gens maintenant ont du mal à imaginer un grand mariage sans PowerPoint.
Sans
PowerPoint.
Ah oui.
Sans une projection à un moment, des photos, avec des petites animations, etc. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les inhumations.
Absolument, les photos des défunts.
Il faut qu'il y ait une photo. Alors, si c'est pas un PowerPoint parce qu'on n'a pas de quoi projeter, il faut de la musique et des images. Et en fait, il y a, alors, vous n'aurez plus une messe, vous n'aurez plus une liturgie comme avant, mais il y a de la musique et des images. Et moi, je pense que c'est des nouveaux rituels qui prennent le pas. Et alors, ce que par contre, on me disait, les entreprises de pompes funèbres, et là, je pense que c'est très vrai aussi, on va vers une personnalisation maximale de ce genre de choses. Je m'explique. Quand j'étais en école de commerce, on avait un cours sur les tendances qui était extrêmement intéressant, de personnes qui nous parlaient de ce qui se passe dans l'air du temps. Alors, ça date d'il y a 20 ans. Et je me souviens d'un cours où ils avaient axé ça sur la personnalisation en disant que la tendance, je parle de ça début des années 2000, était à l'ultra-personnalisation. Ça va de la petite gravure qu'on peut faire sur son sac à main, par exemple. Ça va de la photo qu'on glisse dans son porte-clés, c'était ça à l'époque. Ça va, c'était le début des fonds d'écran, des téléphones portables et des sonneries qu'on téléchargeait. Je sais pas si ça parle encore à des gens, ça. Mais donc voilà, c'était le début de ce genre de choses. Et ce mouvement-là s'est amplifié, j'en suis persuadée. Et les cérémonies sont particulièrement touchées par ça. Ce qui fait que dans les cimetières, on voit effectivement... Alors, il y a toujours des rites funéraires, d'autant plus que Pantin est un cimetière qui est marqué par la communauté juive. Il y a une énorme communauté juive à Pantin, à tel point que moi j'ai entendu des pompes funèbres juives me dire « Ah non, mais de toute façon, c'est notre cimetière ici. » Alors, non, pas tout à fait. Et il n'y a pas que des enterrements de la communauté juive, loin de là. Mais c'est vrai que du coup, et on avait quand même un certain nombre de cérémonies religieuses au sein du cimetière, c'est sûr et certain. Et donc du coup, on était quand même pas aux premières loges, mais on les voyait. On les voyait et on pouvait les mesurer.
Et là, il y a encore beaucoup de rabbins, non ? Parce qu'il y a au contraire une religiosité plus...
Exactement. D'autant plus que, les cérémonies juives, à l'inverse des cérémonies catholiques particulièrement, se font au bord de la tombe.
Voilà,
alors que les cérémonies catholiques, on pouvait avoir un certain nombre de défunts qui étaient passés par l'église et on ne le voyait pas et on ne le savait pas. Donc voilà, ce n'était pas forcément significatif. Après, on voit des cérémonies, mais même de personnes... moi, je me souviens d'une inhumation d'une personne juive, mais pas pratiquante, et je ne sais même pas si elle était croyante. La famille a souhaité rendre hommage différemment. Alors, les hommes portaient la kippa, il y avait une étoile de David sur le cercueil, pour autant, il n'y avait pas de rabbin, et il y a eu plein d'autres choses. Donc voilà, là aussi, c'est très, très personnalisé.
D'accord. Donc, c'est un beau métier, finalement.
Moi, je trouve que c'est un métier absolument passionnant. C'est un métier très enrichissant, alors au niveau du management, parce qu'on encadre dans des circonstances quand même très particulières. Enfin, moi, je devais travailler avec des fossoyeurs, qui sont quand même des gens qui descendent dans des fosses pour tenir, parfois à bout de bras, alors certes avec des équipements de protection, mais quand même, des cercueils qui sont parfois décomposés, des corps, des choses comme ça. C'est un rapport au corps très particulier. La sécurité, j'en parle même pas, parce que on a beau étayer les fosses, on a beau ceci, on a beau cela, on est à l'abri de rien. Je me souviens d'un accident de travail, il y a quand même une partie de la fosse et d'un tas de terre qui atterrit sur un fossoyeur, ce qui n'est pas anodin. Bon, ça c'est bien fini, mais cela n'empêche que ça reste des métiers qui sont dangereux, comme les métiers du BTP. Les accidents de travail, c'est clair que ça n'est pas du tout la même chose dans un bureau et quand on est fossoyeur ou quand on est cantonnier ou même quand on est agent de sécurité. Je me souviens d'un usager qui avait pris un sens interdit, un agent qui lui faisait remarquer, qui ne voulait pas en déborder, qui m'appelle, on se retrouve 3-4 à essayer d'expliquer les choses au monsieur qui était extrêmement énervé. Il est remonté dans sa voiture, il a fait une marche arrière, il a foncé. J'ai juste eu le temps d'agripper ma collègue et de me jeter sur le côté. On a un rapport, effectivement, à la sécurité, au corps, qui est différent. Et d'autant plus que moi, j'y étais au moment du Bataclan. Et être en uniforme avec écrit « sécurité » en novembre 2015, c'est très particulier. En plus, à l'époque, j'habitais à La Défense. Il y avait un projet d'attentat qui a été déjoué à La Défense dans la semaine qui a suivi le Bataclan, par la cellule qui a fait le Bataclan. Je dois dire que j'étais pas forcément tous les jours sereine d'être en uniforme sur le pavé. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais j'ai compris ce que j'ai...
Que les gens ressentent. Et une question saugrenue, pour le coup, les enfants... quand on lui demandait ce que faisaient maman et papa, qu'est-ce qu'ils répondaient pour maman ?
Je ne crois pas, je ne sais pas du tout. Je ne crois pas que... En tout cas, il ne m'en a pas parlé. Moi, je venais le chercher à l'école en uniforme. Je n'avais aucun problème avec ça. Les parents d'élèves qu'on côtoyait étaient au courant. Enfin, il n'y avait pas de sujet. Après, on acquiert aussi un sens de l'humour dans les cimetières, ce que moi j'appelle l'humour cimetière, qui est très particulier et qui, moi, me fait hurler de rire. Je suis très sensible à ce genre de choses, parce qu'en plus, c'est un amour par l'absurde absolument incroyable. Et on avait un agent qui est parti en retraite quand moi j'y étais, qui était un spécialiste de ce genre de choses. Un usager lui disait, mais quand même, qu'est-ce que ça vous fait rien de travailler dans un cimetière ? Il répondait, si, ça me fait vivre. C'était Enfin, je me souviens d'un usager qui se plaignait de l'état du cimetière parce qu'il y avait des feuilles mortes à la Toussaint et qu'on avait ramassé les feuilles et on avait enlevé la plupart des tas de feuilles, mais il y avait un ou deux tas de feuilles qui étaient restées. Donc l'usager se plaignait et l'agent l'écoute très 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 sérieux jusqu'au moment où, un peu à court d'argument, l'usager lui dit « Oui, bien sûr, vous allez... qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous allez rien faire, bien sûr hein. !» Là-dessus, l'agent très sérieux lui répond « Si, nous allons délocaliser la Toussaint au mois d'août. » Bon, voilà, on développe ce genre d'humour qui, moi, personnellement, me fait beaucoup rire. C'est, et j'avais des agents qui disaient « Oh, on est mal payé, mais qu'est-ce qu'on se marre quand même hein. ?» J'avoue que c'est effectivement un métier qui n'est pas forcément toujours facile, pour toutes les raisons que j'ai dites, mais c'est effectivement un métier qui développe ce genre de choses.
Je crois qu'on va s'arrêter parce que toute l'heure du déjeuner, de la pause est passée.
Pas de souci.
Merci beaucoup.
Je voudrais juste rajouter une chose. Paradoxalement, je trouve ça plus facile de travailler sur la mort que sur les vivants. Sur la mort, il y a quelque chose qui est déjà joué. La personne, elle est décédée, on ne pourra rien y changer. Je pense que c'est beaucoup plus facile de travailler dans un cimetière que dans un hôpital, par exemple. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est beaucoup plus facile de travailler dans un cimetière que de travailler, là je travaille actuellement à la protection judiciaire de la jeunesse, avec des parcours de vie cabossés, des gens qui ont vécu des choses extrêmement dures et qui font des choses extrêmement dures, qui dans un premier temps peuvent parfois paraître à sourire, mais quand on creuse un peu, sont dramatiques. Et autant je racontais mes histoires de boulot, comme dit mon mari au cimetière, autant ici j'ai décidé de ne pas le faire, justement pour préserver mes enfants, parce que c'est une réalité qui, quand on la prend en pleine face, est vraiment très très rude. On parle beaucoup de jeunes mineurs non accompagnés qui ont vécu des choses épouvantables. C'est vrai, on ne voit pas tout ce que de jeunes mineurs accompagnés et français, et etc., vivent parfois ici aussi en France. Mmh. Ça peut être vraiment terrible. Et ça, je trouve ça beaucoup plus violent, beaucoup plus dur à raconter à des enfants, d'autant plus que ça parle de leur père, de jeunes qui ont le même âge qu'eux, que de raconter une famille qui sort apaisée d'un enterrement. Je me souviens d'exhumations où on a ri, d'exhumations où on a pleuré, où on a vécu les quatre saisons en même temps qu'une exhumation. Voilà, moi, quand j'ai passé le concours, à un moment, j'ai discuté au moment de l'oral, il y a une dame qui me dit, qui, elle, passait le concours en interne, donc qui connaissait déjà, elle me dit « Non, non, mais dans les cimetières, parfois, on pleure avec les familles, et ils pleurent sur notre épaule. » Je nuance un peu, parce que quand une famille est dans la douleur et dans cette tempête-là, qui est le deuil, ils ont besoin de piliers qui, justement, ne pleurent pas pour s'appuyer, mais c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple que d'accompagner des mineurs qui se retrouvent devant un juge. Et même chose pour les parents.
Oui. Et puis, peut-être la tendance de notre société à penser que les choses sont pliées très tôt.
Peut-être pas. Alors après, là, on est sur un terrain éducatif sur lequel je ne m'aventurerai pas parce que je le connais mal. Et parce que c'est pas mon métier, moi je suis pas là pour ça, moi je suis là pour m'assurer que les équipes aient ce qu'il faut. Mais en tout cas, je pense que la société ne met pas forcément la difficulté là où elle doit être. Je pense que c'est plus facile de se remettre d'un deuil, enfin moi, par certains aspects, je trouve ça plus facile de se remettre d'un deuil que d'un passage devant le juge. C'est quand même pas simple en tant que...
Oui. Bon, la vie, de toute façon, c'est une complication, épreuve, une autre, et il faut tenir le coup.
Et en tout cas, ces choses-là, c'est des choses qui sont de toute façon plus compliquées que bien de choses qu'on peut lire dans le journal, je trouve. Bon, voilà. En tout cas, on ne met pas la difficulté, on a très peur de la mort, ça c'est sûr. La peur de la mort a beaucoup augmenté, je ne sais pas si c'est lié à la désacralisation.
Bon.
Ben, en tout cas, on est beaucoup moins familier d'elle. On ne voit plus les morts, ça c'est sûr. On ne fait plus de toilettes, les familles ne font plus de toilettes mortuaires, ne font plus ce genre de choses. On ne voit plus les gens mourir, beaucoup moins. Donc, il y a peut-être cette distance-là, cette peur qu'on le redoute peut-être plus. Mais honnêtement, je pense qu'on ne redoute pas les bonnes choses.
Enfin, il y a mort et mort. Je vais arrêter. Mais, je viens de perdre un petit-fils par adoption. Il n'a pas vécu. Donc, ces morts-là, c'est des morts terribles. C'est une mort à mon âge, c'est pas dramatique, évidemment, toute la vie est derrière moi.